Véroa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous, en direct de Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, édition du vendredi 3 novembre 2023. Au sommaire, 28e jour du conflit entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne encercle Gaza. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, va plaider pour une cessation des hostilités temporaires et localisées lors de son deuxième déplacement en Israël en moins d'un mois. Combat et exaction continuent en Éthiopie un an après l'accord de paix au Tigré. Au moins 5 civils tués en Centrafrique suite à l'attaque de la ville de Moyenne Sido par les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, veut exhorter Israël à accepter de multiples pauses dans sa guerre contre le Hamas à Gaza afin de permettre l'entrée de l'aide humanitaire. Le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte devait être ouvert pour la troisième fois ce vendredi pour des évacuations. Plus de détails avec Alexandrine Ollonion.
Alors que le conflit entre le Hamas et Israël entre dans son 28e jour, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend aujourd'hui en Israël pour la deuxième fois en un mois et rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres responsables. L'armée israélienne a déclaré jeudi en fin de journée avoir encerclé la ville de Gaza. Les militants du Hamas ont riposté en lançant des attaques à partir de tunnels souterrains. Au moment de quitter Washington pour le Moyen-Orient, Anthony Blinken a déclaré qu'il discuterait en Israël des mesures concrètes à prendre pour minimiser les dommages causés aux civils à Gaza. L'augmentation du nombre de victimes parmi les civils palestiniens, ainsi que l'aggravation des pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant ont suscité une pression mondiale en faveur d'une pause humanitaire dans les combats. Les bombardements israéliens sur la petite enclave palestinienne de 2,3 millions d'habitants ont fait au moins 9061 morts, selon les autorités sanitaires de Gaza. Par ailleurs, la chambre basse du Congrès américain dirigée par les Républicains a adopté jeudi un programme d'aide de 14 milliards de dollars en faveur d'Israël, défiant la demande du président Joe Biden d'inclure également plus d'argent pour l'Ukraine et d'autres priorités urgentes.
Le Hezbollah libanais a annoncé hier avoir mené des attaques simultanées sur 19 positions israéliennes auxquelles Israël a riposté avec une vaste frappe qui a fait 4 morts, selon l'agence officielle à Beyrouth. Cette escalade à la frontière libano-israélienne survient alors qu'Hassan Nasrallah, le chef du puissant Hezbollah pro-iranien, allié du Hamas palestinien, doit prononcer un discours très attendu aujourd'hui. Le Maroc a dit regretter hier l'inaction de la communauté internationale face à l'aggravation de la situation humanitaire à Gaza. Le royaume chérifien exprime son regret et sa déception face à l'incapacité des pays influents de mettre un terme à cette situation catastrophique, alors qu'après plus de 3 semaines d'hostilité, les civils sont toujours pris pour cible. Revenons à l'actualité sur le continent africain à présent. Un an après un accord ayant ramené la paix dans l'État régional du Tigré, combats et exactions continuent en Éthiopie et les victimes attendent toujours que justice leur soit rendue. Jacques Aristide.
Hier, les États-Unis ont salué les progrès importants dans la mise en œuvre de l'accord conclu à Pretoria le 2 novembre 2022, avec pour objectif de mettre fin à l'un des conflits des plus meurtriers de la planète, avec plusieurs centaines de milliers de morts et d'innombrables atrocités. Washington reconnaît toutefois que des défis subsistent tout en réclamant le retrait total des forces érythréennes du Tigré encore présentes dans des zones frontalières. Asmara a fustigé dans la foulée une campagne de calomnie accusant l'Amérique et les pays européens d'utiliser l'Érythrée comme punching ball politique facile. Human Rights Watch a accusé les forces érythréennes de poursuivre des exactions au Tigré et les forces Amhara de mener une campagne de nettoyage ethnique par l'expulsion de forces des Tigréens du Tigré occidental, zone qu'elle revendique et refuse d'évacuer malgré l'accord. Le ministre éthiopien de la communication, Legesse Tulu, a critiqué un rapport fondé sur des éléments peu fiables et manquant d'impartialité qui ne tient pas compte du contexte. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, et celui de l'Union européenne, Joseph Borrell, se sont séparément dit inquiets des conflits en cours dans d'autres régions d'Éthiopie, Amhara et Oromia, les deux plus peuplées du pays notamment, et de la poursuite des violations des droits humains à travers le pays.
En Centrafrique, au moins 5 civils ont été tués lorsque des rebelles ont attaqué la ville de Moyenne Sido près de la frontière avec le Tchad. Son maire, Salomon Yamidji, a raconté que près de 300 assaillants se réclamant du CPC, la coalition des patriotes pour le changement, avaient attaqué la ville. Le bilan provisoire est de 5 morts. Au Sénégal, le représentant de l'opposant sénégalais emprisonné, Ousmane Sonko, a indiqué s'être heurté hier à un nouveau refus de l'administration de lui délivrer des documents nécessaires à la candidature de M. Sonko à la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko a été radié des listes électorales, ce qui l'empêche en l'état de concourir à la présidentielle. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est alarmé hier d'informations sur une attaque imminente et de grande ampleur des paramilitaires soudanais à El Fasher, chef-lieu du Darfour Nord. Les États-Unis sont profondément inquiets. Cette attaque exposerait des civils, y compris des centaines de milliers de personnes déplacées, à un danger extrême, a ajouté M. Blinken.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En sortant du traité interdisant les essais nucléaires, la Russie a fait un grand pas dans la mauvaise direction. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. La Russie a révoqué hier sa ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Nous faisons le point avec Yacouba Ouédraogo.
C'est un grand pas dans la mauvaise direction, a réagi le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, dont le pays n'a jamais ratifié ce document, exhortant Moscou à ne pas reprendre de tels essais. « Je ne suis pas prêt à dire si nous devons ou pas reprendre les essais », a affirmé Vladimir Poutine tout en vantant la mise au point de nouveaux missiles surpuissants pouvant transporter des ogives nucléaires. La promulgation de la loi russe est très décevante et profondément regrettable, selon Robert Floyd, secrétaire exécutif de l'organisation onusienne chargée du traité. Après le début du conflit en Ukraine en février 2022, le président russe a déployé à l'été 2023 des armes nucléaires au Bélarus. Fin octobre, la Russie a procédé à des tirs d'essais de missiles balistiques pour préparer ses forces à une frappe nucléaire massive de riposte. Ouvert à la signature en 1996 et ratifié par la Russie en 2000, le traité interdisant les essais nucléaires n'est jamais entré en vigueur car il a été ratifié par un faible nombre d'États parmi les 44 pays qui détenaient des installations nucléaires au moment de sa rédaction.
Sachez également que les États-Unis ont annoncé hier une nouvelle série de sanctions contre des entreprises participant à la fourniture d'armement à la Russie au 21e mois de son invasion de l'Ukraine. Les deux fils de l'ancien président Donald Trump Jr. puis Eric Trump, sont accusés, comme leur père, de vastes fraudes financières au procès civil qui menace l'empire familial. Hier, au tribunal de New York, ils ont adopté une ligne de défense identique. Ils ne s'occupaient pas des déclarations financières au centre de ce procès. Cette tâche était laissée aux comptables, selon eux. C'est à partir de ces états financiers annuels que le parquet général de l'État de New York accuse le père et les deux frères d'avoir gonflé la valeur des actifs du groupe dans les années 2010.
Lors de cet événement,
le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé jeudi à une réponse unie, durable et globale face aux risques liés à l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle. C'était lors d'un sommet au Royaume-Uni organisé face à l'urgence à agir. Les précisions de Mohamedou Oumfa.
Lors de cet événement organisé à Bletchley Park, près de Londres, Antonio Guterres a estimé que les principes de gouvernance de l'IA devraient être fondés sur la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits humains. Dès le début de la rencontre mercredi, les principales puissances mondiales comme la Chine, les États-Unis et l'Union européenne se sont entendues sur une responsabilité partagée face aux risques de l'IA. Signant la déclaration historique de Bletchley, s'est félicité le Premier ministre britannique Rishi Sunak, citant le physicien Stephen Hawking, qui estimait que l'IA pouvait être la meilleure ou la pire des choses qui puissent arriver à l'humanité. M. Sunak a fait part de sa conviction que ça puisse être pour le meilleur si la collaboration qui s'est amorcée se poursuit. Ces technologies, capables de produire texte, son ou image sur simple requête en une poignée de secondes, ont fait des progrès exponentiels ces dernières années. Elles suscitent d'immenses espoirs pour la médecine ou l'éducation, mais pourraient aussi déstabiliser les sociétés, permettre de fabriquer des armes ou échapper au contrôle des humains, a averti le gouvernement britannique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le gouvernement ougandais a fustigé l'annonce des États-Unis de le retirer d'un accord commercial en raison de violations des droits humains. Kampala affirmait que cette décision nuirait à ses agriculteurs et petites entreprises. Washington a annoncé cette semaine qu'elle excluait à partir de janvier 2024 l'Ouganda ainsi que la République centrafricaine, le Gabon et le Niger de la liste des pays d'Afrique subsaharienne bénéficiaires de l'AGOA. Ce texte datant de 2000 permet aux pays africains d'exporter de nombreux produits vers les États-Unis sans droit de douane. Ce traitement commercial préférentiel est toutefois soumis à une série de conditions en termes de pluralisme politique, de respect des droits humains, d'état de droit ou encore de lutte contre la corruption. Plus de 260 entreprises locales et étrangères ont assisté mercredi à un forum international organisé par le gouvernement de l'Est de la Libye, devant réunir les propositions pour la reconstruction de Derna, sinistrée par des inondations meurtrières en septembre. Plus de 400 participants et 260 entreprises d'une dizaine de pays, dont les États-Unis, la France, la Russie, la Chine et la Turquie, étaient représentés à l'ouverture du forum. Les économistes sous-estiment les impacts économiques du changement climatique, ce qui n'incite ni le secteur financier ni les pouvoirs publics à s'investir dans la réduction des émissions de carbone, selon l'ONG Finance Watch. En conséquence, les modèles économiques des décideurs politiques ne prévoient qu'un niveau bénin de pertes dues au changement climatique et leurs prévisions sont très irréalistes, estime le rapport.
Et maintenant la page sport, présentée ce matin par Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour à tous.
Les Springboks poursuivent leur tournée de 4 jours à travers leur pays.
Oui, après Pretoria, Johannesburg et Soweto hier, les champions du monde de rugby se rendent au Cap aujourd'hui, avant Durban samedi et East London dimanche. Hier, une médaille d'or autour du cou, les Springboks sont arrivés au siège du gouvernement dans la capitale à bord d'un bus à toit ouvert, salué par le président Cyril Ramaphosa comme des joueurs entrés dans la légende.
Never in the history of world rugby.
Jamais une équipe dans l'histoire du rugby mondial, dans toute l'histoire du rugby mondial, n'avait gagné 4 Coupes du Monde jusqu'à maintenant.
The Cup 4 times. Until now.
Ce faisant, vous avez élevé l'esprit de toute la nation et vous nous avez emplis de fierté.
And you filled us with pride.
Le président Cyril Ramaphosa a décrété le 15 décembre prochain, jour férié, pour marquer le triomphe des Springboks obtenu le week-end dernier à Saint-Denis, près de Paris, face à la Nouvelle-Zélande en finale 12 à 11.
Ici aux États-Unis, Lionel Messi battu pour le prix du meilleur nouveau venu en MLS.
Récompensé lundi par un 8e ballon d'or record, l'Argentin n'a en revanche pas reçu le prix du meilleur nouveau venu en MLS, décerné hier au Grec d'Atlanta United, Georgios Giakoumakis. L'attaquant de 28 ans, passé par le Celtic Glasgow de 2021 à 2023, après avoir vécu l'essentiel de sa carrière en Grèce, a inscrit 17 buts cette saison. Messi, ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, qui s'est engagé cet été avec l'Inter Miami, est arrivé à la deuxième place malgré sa victoire en League Cup, une compétition mettant aux prises les équipes américaines et mexicaines. Son équipe n'a pas réussi en revanche à se qualifier pour les playoffs du championnat des États-Unis.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg toujours avec vous. Place au dossier du jour. La mort nous guettait, vivre sous siège au Burkina Faso, c'est un nouveau rapport d'Amnesty International qui documente les attaques des groupes armés et leurs conséquences sur la situation humanitaire. Le document fait aussi état de nombreuses exactions et crimes commis par les forces armées nationales contre les civils. Pour aborder les perspectives d'amélioration de la situation, Eric Manirakiza, adjoint à Dakar au Sénégal, Ousmane Ali Diallo, chercheur d'Amnesty International sur le Sahel.
On parle de près de 2 millions de personnes qui sont affectées par cette politique de siège qui entrave leur accès à la sécurité alimentaire à cause des interdictions de cultiver et d'accéder au pâturage, mais aussi à l'inflation que l'on note dans la plupart de ces villes sous siège, donc qui renforce le sentiment de désespoir. Donc au-delà de ça aussi, il y a des cas d'homicides illégaux faits par les groupes armés et des menaces d'attaque contre les convois de ravitaillement qui ravitaillent ces villes. Et de manière générale, nos recommandations sont adressées aux autorités gouvernementales du Burkina Faso, aux groupes armés à qui nous demandons d'arrêter cette politique de siège qui a un impact disproportionné sur la vie des populations civiles, mais aussi de respecter le droit international humanitaire en évitant les homicides illégaux et de sanctionner tous leurs membres qui sont responsables de ces atteintes au droit international humanitaire. Et nous formulons un certain nombre de recommandations au gouvernement de mieux former et encadrer les VDP et les soldats, surtout en matière de droit international humanitaire, pour prévenir des incidents qui peuvent constituer des attaques indiscriminées contre les populations civiles, comme on a pu le noter dans la ville de Holdé.
Le gouvernement burkinabé est-il d'accord avec votre rapport par rapport à vos recommandations, à vos conclusions?
Nous ne savons toujours pas les positions du gouvernement burkinabé par rapport à ce rapport. Nous avons voulu les rencontrer au mois de juin 2023, lorsqu'une délégation d'Amnesty International était présente au Burkina Faso. Donc des lettres de demande d'audience ont été adressées au ministère de la Défense et des Anciens Combattants, au ministère de la Justice, Garde des Sceaux, au ministère de l'Action Sociale qui s'occupe de toutes les questions humanitaires, ainsi qu'au ministère de l'Administration Territoriale, entre autres. Mais on n'a pas eu de réponse des autorités, à part une du ministère du Genre et de l'Action Sociale et de la Famille, qui nous disait ne pas pouvoir nous recevoir durant la présence de la mission au Burkina Faso au mois de juin 2023. Nous avons aussi envoyé les conclusions préliminaires du rapport avec un droit de réponse au Premier ministre du Burkina Faso, donc une lettre envoyée depuis le 27 septembre 2023, qui a été reçue par le cabinet du Premier ministre et qui nous est revenue de manière informelle pour nous dire qu'il fallait l'adresser plutôt à différents départements ministériels comme la santé, comme l'éducation ou bien au ministère de l'Action humanitaire. En fait, à tous les autres ministères que nous voulions rencontrer au mois de mai et de juin 2023. Ce que nous avons fait le 12 octobre, donc des correspondances ont été envoyées à 7 ministères du Burkina Faso, mais à la date de la publication du rapport, on n'avait toujours pas eu de réponse.
Et comment évaluez-vous l'évolution de la situation depuis le dernier coup d'État qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir?
Les tendances négatives qui existaient avant le coup d'État, du 30 septembre 2022, se maintiennent toujours. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de villes assiégées, le nombre de populations déplacées internes a augmenté, les capacités des autorités militaires et humanitaires sont toujours limitées. Et ce qui a été en changement, c'est la posture du gouvernement par rapport au conflit, à la stratégie adoptée, donc une stratégie misant sur le tout militaire avec la rupture du dialogue qui avait été annoncée par le lieutenant-colonel Damiba.
C'était Ousmane Ali Diallo, chercheur d'Amnesty International sur le Sahel. Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM. La presse ivoirienne et internationale a vécu une période sombre au cours des crises politiques des années 2000. Plusieurs journalistes ont été éprouvés dans l'exercice de leurs fonctions pendant que d'autres ont perdu la vie. À l'occasion de cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, commémorée ce 2 novembre, les professionnels des médias ivoiriens ont décidé de rendre hommage à ceux d'entre eux qui ont péri pendant ces crises. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenyo.
Marche solennelle en la mémoire de Jean Hélène. Ce journaliste français de Radio France Internationale a été assassiné le 21 octobre 2003 par un policier à Abidjan. 20 ans après sa disparition, les souvenirs de cette journée restent encore frais dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. Kofi Christophe, ancien journaliste à l'AFP, témoigne.
Concrètement, à 13h-14h, étant à l'AFP, il me fait un cadeau parce qu'il rentrait des vacances, d'un sac RFI, un noir estampillé avec un logo rouge. Et il me fait ce cadeau et figurez-vous, à 14h et à 19h, c'est moi, grâce à une information, qui suis devant son corps inerte à la sûreté pour annoncer au monde entier son décès. Franchement, ça m'a... 20 ans après, sa disparition me hante.
La disparition du journaliste français a choqué beaucoup de monde. L'auteur du crime, un ex-policier du nom de Robert Siri, a écopé d'une peine de 17 ans de prison. Pour les journalistes ivoiriens, cette mésaventure ne doit plus se reproduire. Christophe Koffi.
Ce jour-là, le 21 octobre, Jean Hélène prenait aucun risque. Pour lui, il partait tendre le micro. Et puis, où est-ce qu'il partait? Jean partait à la sécurité nationale, le sein des saints, où on passe sur la sécurité de quelqu'un. Et ironie du sort, c'est là-bas, il avait rendez-vous à la mort et il a été tué.
Cette année, la Côte d'Ivoire a reculé en matière de liberté de la presse d'après un rapport fourni par Reporters sans frontières. Le pays occupe la 54e place sur 180 pays, alors que l'année dernière, il occupait la 37e place. Pour le ministre ivoirien de la communication Amadou Koulibaly, chacun doit jouer sa partition pour sauvegarder la liberté de la presse.
Nous devons veiller sur la liberté de la presse et le droit à l'information. Chacune et chacun d'entre nous doit être le gardien de ces valeurs fondatrices de la démocratie. La liberté de la presse et la responsabilité sont les deux faces d'une même médaille.
Selon Reporters sans frontières, le paysage médiatique ivoirien est parmi les plus politisés et polarisés d'Afrique de l'Ouest. Les journalistes sont parfois convoqués pour être interrogés par les procureurs et certains font l'objet d'agressions physiques ou verbales. Il n'est pas rare que les journaux soient suspendus. Ange Bijou Nomenyo pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24. Le président américain Joe Biden a annoncé le 30 octobre son intention de mettre fin à la participation de plusieurs pays africains au programme commercial de l'African Growth and Opportunity Act, ou AGOA. C'est, dit-il, en raison de violations flagrantes des droits de l'homme et leur incapacité à établir ou réaliser des progrès constants dans la sauvegarde du pluralisme politique et de l'état de droit. Parmi ces pays figure le Niger. Notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa, est allé à la rencontre des acteurs bénéficiaires de cet accord commercial préférentiel. Voici son reportage.
Au village artisanal de Ouadata de Niamey, la nouvelle a refroidi beaucoup d'artisans. Ali Kilili est le président de leur coopérative.
Je dirais que ce n'est pas vraiment une très bonne chose pour nous, qui sommes les acteurs bénéficiaires directs de ce programme. Mais quand même, et comme on parle de la sauvegarde de notre patrie, ça fait partie vraiment des sacrifices que nous sommes en train de faire pour que le Niger puisse vraiment recouvrer son indépendance et son intégrité. Je dirais que ce n'est pas grave. En tout cas, moi, je pense que ce n'est pas grave. Ce n'est pas aussi grave que ça.
Ici, on réfléchit déjà à des alternatives.
L'alternative possible, c'est peut-être de demander aux Nigériens de se tourner vers nos produits que nous fabriquons nous-mêmes.
C'est-à-dire que c'est aussi une alternative. Donc organiser des foires et des expositions sur le plan national. Donc demander aux Nigériens leur amener à comprendre l'enjeu et se tourner vers nos nouveaux partenaires qui sont prêts à nous accompagner. Parce que si les États-Unis aujourd'hui disent je ne veux plus vous accorder des facilités, il y a certains pays qui sont là, qui sont prêts à nous accompagner. Donc je pense qu'on va essayer de faire avec ces pays-là.
Réagissant aux éventuels impacts que ce retrait pourrait avoir sur les échanges commerciaux entre le Niger et les États-Unis d'Amérique, le président du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger, El Hadj Yacouba Damaradi, relativise.
Parmi les commerçants, il y en a qui ne savent même pas ce que c'est la Goa. Ils ne savent même pas ce que c'est. Tout le temps que ça a pris. Donc, et même les artisans, donc ceux qui en savent, c'est ceux qui ont profité pour faire immigrer des gens, ou ceux qui ont profité pour vendre les quelques éléments donc individuels qu'ils ont. Et puis ça s'est limité à cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'impact n'est pas très ressenti en réalité. Donc, à l'échelle, en tout cas nationale. À l'échelle de quelques individus, oui, mais à l'échelle nationale et sur l'échelle de notre économie, donc l'impact n'est pas réparti.
Au Niger, les produits d'exportation de la filière cuir et peau, du secteur de l'habillement ou encore du secteur minier sont ceux qui bénéficient le plus des avantages de cette loi adoptée en l'an 2000 par le gouvernement américain pour soutenir l'économie des nations africaines en simplifiant leur accès au marché américain. Dès son adoption, le Niger figurait sur la liste des nations bénéficiaires. Il y a été suspendu en 2010 après un coup d'État et réintégré une année plus tard. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM 24h/24. En République démocratique du Congo, la femme d'affaires et politicienne Joëlle Bilé a déposé hier son dossier de candidature à la CENI suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle ordonnant lundi à la commission électorale de l'intégrer sur la liste des candidats retenus pour la présidentielle. Après l'ajout de deux candidats en matière de contentieux électoral, 26 sont ainsi en lice, dont deux femmes. La liste définitive sera publiée le 18 novembre. La réaction de Joëlle Bilé, jointe par Nathalie Barge.
Ma réaction, c'est que je suis la première heureuse. Heureuse non pas parce que uniquement mon nom s'est retrouvé sur cette liste des candidats à la présidentielle, mais surtout de me rendre compte que la Cour constitutionnelle, qui à mon sens est vraiment le rempart de la démocratie, a réussi à matérialiser cet état de droit dont j'ai longtemps et si souvent entendu parler dans mon pays. Et en tout cas, je suis très heureuse parce que, comme je vous dis, ça a été quand même une bataille de longue haleine. Et voilà, quoi, je suis heureuse de cette issue positive.
Pourquoi votre dossier de candidature a-t-il été refusé en premier lieu? Que vous ont répondu les administrateurs de la CENI lorsque vous leur avez posé cette question?
Justement, ça n'avait pas été des réponses claires, donc je suis restée un peu sur ma soif, d'autant plus que j'avais rendez-vous à la CENI le dimanche à 10h30. J'ai dû attendre environ midi avant d'être reçue, parce que juste avant moi, il y avait un candidat qui, lui, n'avait même pas sa carte d'électeur. Ce candidat a eu le privilège d'être enrôlé au sein même du bâtiment, d'obtenir sa carte d'électeur, ce qui était une condition sine qua non pour être candidat. Et par contre, quand c'était à mon tour, que oui, voilà, on n'a plus trop le temps, vous arrivez à la clôture de tout. Ça a été des raisons qui, pour moi, étaient un peu fallacieuses. Et donc, comme je savais que je pouvais encore faire recours, j'ai donc préféré ne plus me perdre dans des explications qui n'étaient pas très claires. Parce qu'en tant qu'indépendant, rassurez-vous, je n'avais pas non plus une pile énorme de dossiers à transmettre. Hein. Il fallait le certificat de nationalité, la carte d'électeur, quelques photos, les copies des différents diplômes, des attestations de son parcours académique, scolaire et autres. Il fallait l'extrait de casier judiciaire et bien entendu la caution. Donc toutes ces pièces ont été présentées à la Cour constitutionnelle qui a examiné non seulement ma requête mais aussi qui a été face aux experts de la CENI, les experts judiciaires de la CENI, qui n'ont pas réussi à trouver un élément qui viendrait contredire le sens dans lequel j'ai mené ma requête. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que mon nom figure parmi les candidats. Tous les soubresauts qui ont été tout autour de ma candidature, et ben, je pense que tout ça est maintenant bien loin derrière moi. On va regarder à l'avenir. Il faut regarder plutôt ce que j'apporte comme nouvelle offre politique. Pourquoi est-ce que je me présente maintenant et à quoi est-ce que je m'attends? Je pense que c'est ce qui intéresse les auditeurs.
C'était Joël Billet, candidate à la présidentielle en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à l'écoute. Très bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.